Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Guy Le Tieck, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Académie. Dans vos précédentes émissions sur les Borgia, vous avez présenté les personnages principaux de cette fameuse dynastie, et puis le pape Alexandre VI. Vous êtes historien moderniste et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Talendier, Les Borgia, enquête historique. Que les Borgia, dont le mythe et la réalité, au lieu de s'estomper, sont vivifiés au fil du temps, nous fassent aujourd'hui encore et encore rêver et réfléchir. Que Victor Hugo et Donizetti soient passés par là et qu'ils aient eu une responsabilité pour remodeler l'histoire, c'est évident. Alors Guy Le Tieck, quels sont les enjeux encore actuels attachés à cette famille? Enfin, puis quelles sont les raisons de cette légende noire?
Les enjeux, c'est comprendre finalement ce qu'est la papauté à la Renaissance. Les raisons de cette légende noire, c'est prendre en compte d'emblée cette réalité du pontificat d'Alexandre VI, à savoir des faits, mais du vivant même du pape également, une propagande de la part de ses ennemis qui jette les bases du mythe futur. Il y a, pour l'historien même, cette nécessité absolue de démêler le vrai du faux dès le pontificat d'Alexandre.
Car les polémiques étaient déjà là, les pamphlets étaient déjà là tout à
exactement,
l'heure.
Exactement, les opposants d'Alexandre VI, sans jeter le propre sur telle famille, mais les Colonna, les Orsini ou les Caetani, où les Savelli ont compris très vite l'intérêt qu'ils tireraient d'une production pamphlétaire importante, dénonçant, on verra ce qu'il en est, hein, de la véracité ou pas de leur dire, dénonçant cette dynastie, ses crimes, les accusant d'inceste, enfin tout ce que l'on connaît, ou d'usage du poison. Eh bien, cela, c'est dès le vivant d'Alexandre, mais on verra que la postérité a fait des choix souvent différents et que les siècles même ont constamment remodelé ce mythe.
Et alors, on a parlé des opposants des familles, et il y a aussi le cérémoniaire Jean Burckhardt, qui est peut-être aussi responsable de cette postérité.
Alors Jean Burckhardt est, je dirais, quand même soucieux des intérêts de la papauté et ne livre pas tous les éléments a priori scandaleux de cette cour pontificale. On a pu mentionner dans une émission précédente peut-être qu'il tenait un silence respectueux sur les conditions mêmes du conclave, prétextant son absence de Rome, et les autres péripéties de cette cour pontificale, je pense qu'il est loin de les avoir toutes mentionnées.
Mais cependant, il n'aimait pas Alexandre VI.
Il n'aimait pas Alexandre VI, c'est acquis, et l'une des fêtes jugées comme les plus scandaleuses, en fait, du pontificat d'Alexandre, le fameux banquet des courtisanes, au cours duquel, donc, des prostituées romaines sont de façon assez classique pour le pontificat, introduites donc dans le palais du Vatican, et donc il y a des scènes, non pas de débauche effrénée, mais simplement des danses lascives qui sont exécutées à la demande de César Borgia. Bon, là, pour répondre concrètement sur cette éventuelle accusation, Alexandre n'a sans doute pas assisté à la totalité du banquet. Bon. Et encore une fois, Burckhardt est loin d'alimenter et de nourrir l'essentiel de cette, ce qu'on appellera la légende noire. Cette légende noire, de quoi est-elle faite? Eh bien, d'abord, si vous voulez, encore une fois, ce n'est pas à proprement parler sous ce pontificat une légende. Il faut prendre, par exemple, le cas de Lucrèce. Lucrèce, dont on indiquait que le premier mari véritable, Giovanni Sforza, est contraint à accepter la dissolution du mariage. Cet homme est le premier à avoir proféré des accusations d'inceste et il a prétendu avoir assisté au Vatican à des gestes trop affectueux du pape à l'égard de sa fille. Ces marques d'affection, manifestement, il les a outrées pour accréditer cette accusation d'inceste. Le premier grand pamphlet des opposants, le pamphlet adressé au cardinal Savelli, qui apparaît entre 1501 et 1502, il y a deux versions, reprend cette accusation d'inceste. Elle est également relayée par ceux auxquels vous faisiez allusion, les poètes napolitains ou humanistes comme Sannazzaro ou Pontano, qui forgent des épigrammes, entumes ou posthumes, et qui accusent Alexandre et César d'être les amants de leurs filles et de leurs sœurs. Bon, ceci toujours du vivant du pape. Mais le fait marquant, malgré tout, est qu'à la mort d'Alexandre, l'opinion globale ne va pas perpétuer dans l'immédiat ces accusations. Le successeur Jules II, par exemple, qui est son, on se le rappelle, son principal adversaire, se contente, je dirais, de qualifier Alexandre de marane.
Ce qui est très fort, quand
même. Ce qui est très fort, bien sûr. Mais plus, je dirais, par un mouvement d'humeur. La preuve, si l'on en croit le journal de son autre cérémonière, Paris des Degrassi, il le fait en voyant le portrait d'Alexandre VI peint dans les appartements Borgia, mais cela le pousse juste à déménager et à aménager à l'étage supérieur dans les appartements que va lui décorer Raphaël. Mais il ne fait pas biffer ou détruire les fresques qui représentaient son prédécesseur, dont il pouvait dire dans un mouvement d'humeur qu'il était un marade.
Et en fait, ça va rebondir au moment de la réforme. À mi-16e siècle, le mythe va être lancé ou relancé.
Le mythe s'emballe effectivement au moment de la réforme protestante. Alors, pour bien comprendre, il faut aussi prendre en compte le fait suivant. Les actions scandaleuses du pape, on ne peut pas les nier, comme l'achat de son élection et la façon dont il a fait main basse pour la préservation de ses intérêts familiaux, mais aussi pour partie pour établir la puissance temporelle de la papauté. Le scandale était tel qu'un grand nombre des sources du temps attribuent cela à un véritable pacte avec le diable. On dit d'Alexandre qu'il a vendu son âme au diable, et l'on voit, certes chez des chroniqueurs vénitiens, mais même dans le registre de Bologne, où il a donc université où il a eu son titre de docteur, la mention anonyme qu'il est à telle date, il est parti aux enfers. Bon, pourquoi cela? Eh bien parce que, je dirais, à cette époque, on pense simplement dans ces termes, quand le scandale est trop grand. Et il peut être très grand, eh bien, on attribue cela. C'est une accusation, somme toute, courante pour la papauté et pour les papes les plus sulfureux, si j'ose dire. Le pape Sylvestre, par exemple, le pape de l'an 1000, avait déjà été accusé d'un pacte avec le diable. L'un des grands tenants de la théocratie pontificale médiévale, Boniface VIII, aussi. Et lorsqu'Alexandre VI, dans l'ultime péripétie de sa vie, meurt au cours de ce fameux repas...
Empoisonnement. Faudra nous raconter ça, parce que c'est vrai,
là,
ça.
Là encore... On pense que le diable y a mis sa main. Quelles sont, en un mot, les circonstances? Effectivement, les Borgia n'ont pas un poison fabuleux, la cantarelle. Là. Ils ont une formule, manifestement, à base d'arsenic, qui permet, arme sinon courante, du moins inconnue, de se débarrasser de leurs adversaires. Mais la particularité, comme l'a noté l'ambassadeur de Venise, la particularité d'Alexandre, toujours pour accroître la puissance, cette fois, de sa seule famille, est de doter les cardinaux d'église, ces cardinaux, d'un certain nombre de revenus. Et comme dit l'ambassadeur, une fois qu'ils sont bien engraissés, il les tue pour distribuer tous leurs bénéfices à ses proches.
Oui, parce que le pape récupère les possessions cardinalistes des autres.
Ces dignités qui appartiennent, si vous voulez, aux cardinaux, il ne peut pas leur enlever jusqu'à leur décès, précisément. Et l'erreur que commet Alexandre, c'est de convoiter les biens du cardinal Cornetto. Ce cardinal Cornetto est un cardinal nommé, comme tous les cardinaux nommés sous son pontificat par Alexandre, bien sûr. Mais c'est l'ancien secrétaire d'Alexandre qui est au fait de nombre de ses secrets. Et lorsque, en août 1503, le 6 août, si je ne m'abuse, il reçoit cette invitation funeste que le pape vient dîner chez lui, il a compris que son arrêt de mort peut être signé. Et il prend toutes ses précautions. Il achète la complicité du cuisinier et il prépare un plat de boucher frites, des bocconi, à moitié, divisé en deux, c'est-à-dire une partie est empoisonnée, celle qui sera placée devant le pape à son intention, et une partie saine, celle dont il s'alimentera. Cela marche parfaitement. Le pape, effectivement, s'alimente avec cette partie empoisonnée, mais on sait que le pape offre le vin, et c'est le vin qui est empoisonné. Et là, il y a méprise, en fait. Manifestement, les chansons s'absentent quelques minutes et l'aide de les chansons verse le vin empoisonné au pape. Et comme tout le monde voit le pape boire ce vin, on en déduit que la bouteille est saine, en quelque sorte, et tout le monde s'empoisonne. Un repas qui compte 7 personnes, 3 morts tout de même, 3 personnes empoisonnées et un seul qui, miraculeusement, en a réchappé. Ça supposait forcément une intervention du diable.
Donc les protestants l'ont traité d'antéchrist un peu à cause de cette histoire incroyable de la mort d'Alexandre VI.
C'est une des raisons, effectivement, puisque les premiers protestants sont des protestants, sont des réformés italiens, qui disent tenir tout ce qu'ils vont rapporter de secrétaires, de cardinaux du temps. Et l'on va voir, vraisemblablement d'abord en Suisse, Genève entre autres, on va voir donc paraître des gravures satiriques dénonçant globalement la papauté, mais sous les traits même d'Alexandre VI. Et ce sont une série de gravures magnifiques où l'on, avec un volet qui se soulève et où le volet supérieur, l'on voit la figure du pape et en dessous, on voit tout simplement le diable. L'accusation d'antéchrist va se développer dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, toujours sous la plume des penseurs réformés, jusqu'au français Philippe Duplessis-Mornay, parce qu'il s'agit pour ces réformés de penser, en fait, cette question théologique propre aux chrétiens aussi, celle du mystère du mal. Et comment le mystère du mal a pu s'incarner dans l'institution qu'ils combattent, la papauté. Et pour eux, Alexandre VI est l'un des papes dont le pontificat marque une révélation progressive du mystère du mal et donc de la venue de l'antéchrist, mais au même titre que ses prédécesseurs et ses successeurs. Simplement, on choisit, et on désigne ces gravures comme le portrait d'Alexandre VI, on choisit la figure même d'Alexandre VI pour donner une image vive du portrait, sinon de l'antéchrist, du moins de cette incarnation progressive de ce mystère du mal. Et il y a là, effectivement, une charge très forte contre Alexandre VI. On peut dire que le XVIe siècle est peut-être, et la Renaissance, le siècle qui a le plus concouru à la légende noire du seul pontife. Et par ricochet, un peu des enfants, mais on va voir que les autres siècles...
Oui, parce qu'au XVIIe, le diable est évacué. Et puis on oublie un petit peu Alexandre VI et c'est César qui va devenir le parangon de la dynastie Borgia décadente.
Oui,
ce sont les crimes là, c'est plus le diable.
Voilà, c'est la figure. Alors effectivement, même si le XVIIe connaît encore le diable, il ne fréquente plus autant la table des Borgia. Et César Borgia, qui a entre autres pris le duché d'Urbino, eh bien, un auteur décide de lui consacrer une biographie dédiée précisément à la dernière représentante de la dynastie spoliée, Della Rovere, devenue grande duchesse de Toscane. Et c'est un portrait à charge contre le condottiere, on n'omet aucun de ses crimes et on l'en crédite d'un peu plus.
Parce que Della Rovere, ça veut dire que c'est de la famille de Jules II.
Également, bien sûr, puisque c'est effectivement cette dynastie mise en place par Jules II à la tête du duché d'Urbino et qui ensuite s'éteint et donc il ne reste que cette lointaine descendante. César, donc, est ce condottiere sanguinaire, hein, cruel, tel que nous le dépeint le biographe. Et cette biographie, qui aurait pu rester, ma foi, je dirais peu connue, va avoir un grand succès, deux éditions au moins en italien, très vite traduites en français, puis en anglais. Et les philosophes au XVIIIe, qui parfois n'ont pas le même rapport aux sources que, je dirais, la grande école savante française du temps, s'en contentent pour écrire sur les Borgia.
Oui, parce que Voltaire a eu un rôle assez important. Je trouve que cet homme qui cherchait toujours à être lucide est tombé dans le panneau du mythe Borgia.
Et oui,
pouvait-il ne pas le faire ?
Pouvait-il ne pas le faire ? Ça, difficile à dire. Mais de fait, cette biographie notamment devient la source principale de l'histoire des Borgia. Et cette figure, on a là un premier retour, je dirais, de la dynastie dans l'historiographie, en l'occurrence là, plutôt la littérature philosophique. Mais cela marque durablement le XVIIIe siècle, même si dans la deuxième moitié, le mythe est quand même moins présent.
Alors Lucrèce apparaît, elle, avec Victor Hugo et Donizetti, c'est-à-dire au XIXe.
Voilà, là, il y a quelque chose d'assez magnifique par les réalisations qu'elle produit. C'est chez le jeune Hugo, nous sommes en 1833, où la réinvention de ce personnage de Lucrèce, dont on a vu, je dirais historiographiquement, qu'elle est somme toute d'abord la victime de ses proches, hein, père et frère. Eh bien, de façon dramatiquement très réussie, Victor Hugo en fait l'héroïne de la pièce homonyme. Et hélas, si j'ose dire pour la vérité historique, mais bon, tant mieux pour la dramaturgie, il la crédite, elle devient en quelque sorte le réceptacle, la cristallisation de tous les crimes Borgia. Bien sûr, à l'accusation primitive d'inceste, c'est jointe la question de l'enfant qui est né sans père de Lucrèce, le fameux enfant romain, infans romanus, qui a contribué à jeter le trouble aussi sur les relations entre Alexandre et sa fille, voire César et sa fille. En un mot, cet enfant qui est né de l'adultère de Lucrèce avec le jeune chambellan d'Alexandre, entre deux de ses mariages, le patriarche Alexandre a cru bien faire pour donner des droits à ce nouveau-né par une première bulle attribuer la paternité de cette naissance à César et à une mère inconnue, niant bien sûr la maternité de Lucrèce puisqu'on essayait de la remarier avec Alphonse de Naples. Et dans une deuxième bulle destinée à rester secrète, Alexandre, pour lui donner tous les droits au patrimoine Borgia, reconnaît lui-même cette paternité. Évidemment, lorsque la bulle est connue, et on savait pertinemment que Lucrèce avait mis au monde cet enfant, un pape qui reconnaît une paternité d'un enfant né de sa fille, cela pouvait au moins faire jaser. Et donc, cet élément si riche mythiquement ressurgit dans la pièce de Hugo avec ce fils caché de Lucrèce et cet emploi du poison. Et la malheureuse Lucrèce, si j'ose dire, se retrouve marquée du sceau de l'infamie du mythe Borgia dont elle avait été à peu près préservée jusqu'à présent.
Et au XXe siècle alors, parce que les historiens se sont penchés avec un désir de rétablir la vérité.
Alors, cette floraison de chefs-d'œuvre, d'abord la Lucrèce de Victor Hugo et l'opéra homonyme Lucrezia Borgia de Donizetti en décembre 1834, si je ne m'abuse, a amené les historiens à réagir, à commencer par le biographe de Lucrèce dès le XIXe siècle, Gregorovius, qui a écharpé littéralement nos romantiques. Et à sa suite, les travaux historiographiques se sont multipliés pour, on va dire, tenter d'y voir plus clair. Mais c'est presque une malédiction, je dirais, que cette historiographie des Borgia, puisque désormais, tous les historiens se doivent en quelque sorte, ou commencent par vouloir faire le départ entre le mythe et la réalité.
Mais oui, dans votre livre, vous avez commencé comme ça.
Oui, parce que si vous voulez, ce mythe est malgré tout toujours vivant, puisqu'il génère ou il suscite, que sais-je, des séries télévisuelles ou autres, et forcément, l'historien doit, en raison même de cette vitalité et de cette force du mythe, tenter d'en faire l'histoire. Je crois qu'il n'y a peut-être pas de meilleur moyen de s'en guérir que de dire quel est précisément le mythe lui-même.
Oui, il faut déjà démêler le vrai du faux et ensuite on peut être entendu. Et en guise de conclusion de tout ce que ces Borgia, en si peu de temps, ont réussi à traîner derrière eux, cette vitalité incroyable, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est surtout politique?
Bien, il faut voir que, je dirais, si l'on ajoute les deux pontificats Borgia, on a 14 ans de règne pour Calixte III et Alexandre VI. Eh bien, en 14 ans, et certes les années de cardinalat entre-temps, il fallait que cette famille étrangère puisse s'établir et, je dirais, se tailler une place face à une aristocratie italienne et notamment romaine, bien évidemment impitoyable, pour laquelle de nouveaux cardinaux, a fortiori étrangers ou espagnols, étaient des concurrents redoutables. Et pour comprendre, il faut avoir cela présent à l'esprit pour comprendre nombre des caractéristiques de ces Borgia. Et cet exercice du pouvoir, c'est aussi presque la meilleure incarnation de la papauté de la Renaissance d'avant la réforme
du Concile de Trente.
Du Concile de Trente, du dernier tiers du XVIe siècle. La preuve, Machiavel, je dirais, donne ses lettres de noblesse à ce pape dans l'histoire de l'Italie, car, comme il le dit, jusqu'à Alexandre VI, la papauté ne comptait pas comme puissance temporelle. Et il a fallu Alexandre VI, puis Jules II, pour que cette papauté soit respectée dorénavant et soit un acteur essentiel dans cette confrontation qui va très vite devenir une confrontation entre France et Espagne au sein de la péninsule italienne. Et là, il faut l'attribuer au génie politique d'Alexandre VI.
Eh bien, merci beaucoup, Guy Le Tiec. Vous nous avez présenté les exploits à Borgia, mais vus par le prisme de la vérité et de la stratégie. Merci.
Je vous en prie.